l'Agora des Savoirs, des conférences ouvertes à tous. Une initiative de la ville de Montpellier en partenariat avec Divergence FM.
L'interrogation de l'être humain,
la création de l'univers,
des gens qui ont écrit, qui ont pensé avant nous, qui ont perçu la réalité autrement.
Les mercredis à 20h30, salle Rabelais, la ville de Montpellier propose une trentaine de conférences destinées au grand public.
Que voulez-vous, madame? Pour vous, nous avons le scepticisme, l'hédonisme, le rigorisme.
Divergence FM diffuse les conférences en direct sur le 93.9.
Depuis 2 millions d'années, il se raconte des histoires qui n'ont absolument ni queue ni tête.
Il y a beaucoup de choses en nous.
La restime de sirène jusqu'au mur de mai 68.
Que nous ignorons.
La philosophie n'est pas un ustensile.
Bien sûr, ces mots sont familiers au commun des mortels.
La science est un discours.
Le 18 janvier 2012, erreurs et fraudes en science. Aux yeux du grand public, la science progresse grâce à ses piliers que sont la raison et l'objectivité. Cette vision idéaliste et parfaite de l'activité scientifique est également largement partagée par les scientifiques eux-mêmes. L'histoire des sciences montre en fait que le scientifique est souvent guidé par une conviction intime ou diverses motivations. On accuse les conduites qui sont loin d'être exemplaires et qui conduisent à des échecs, mais on les oublie toutes les fois où elles permettent une avancée. Camille Fadel, chef du département de physique au Palais de la Découverte, répondra à ces questions dans ce nouveau numéro de l'Agora des Savoirs.
Eh bien, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette soirée de l'Agora des Savoirs. Vous êtes toujours aussi nombreux, c'est un vrai plaisir, je dois dire. Alors, je vous présente ce soir, avec beaucoup de plaisir, Camille Fadel, donc qui est le chef du département de physique du Palais de la Découverte. Et je viens d'apprendre qu'en fait, ce n'était pas tout à fait ça l'intitulé. Il semblerait que ça ait un petit peu changé, qu'il faille dire maintenant chef de l'unité.
Oui, effectivement, il faut dire chef de l'unité maintenant, puisque depuis quelques temps, depuis un an ou deux ans, peut-être même, je ne sais même pas, moi-même, le Palais de la Découverte et la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris ont fusionné et l'ensemble forme un même établissement qui s'appelle Univers Sciences. Et l'organisation maintenant de cet Univers Sciences fait que les départements du Palais de la Découverte, les anciens départements, s'appellent maintenant des unités.
Donc, bienvenue au chef de l'unité pour la physique au Palais de la Découverte. Donc, Camille Fadel est physicien et il a eu la bonne idée de se former aussi en histoire des sciences. Et là, je peux témoigner de cette affaire-là, puisque c'est à cette occasion que j'ai rencontré Camille, puisque nous étions à Paris 7 tous les deux, dans ce qui s'appelait alors un DEA, c'était un diplôme d'études approfondies, je ne me trompe pas.
Voilà, c'est ça.
En épistémologie et en histoire des sciences, et que nous avons suivi là des enseignements. Alors je me souviens très bien d'un cours, c'était un cours d'histoire de l'électromagnétisme.
Oui, d'Olivier Darigol.
Voilà, qui était donné, dispensé par un historien des sciences que j'admire beaucoup et qui s'appelle Olivier Darigol. Alors à l'époque déjà, c'était dans les années 90, hein, ça commence un petit peu à dater. Camille était déjà un fou du Palais de la Découverte et je pèse mes mots quand je dis ça. Alors le lieu, le palais, je ne sais pas si vous connaissez cet endroit, mais c'est vrai que c'est un lieu tout à fait exceptionnel. Son architecture, son histoire aussi, et sa position dans la ville. Un tel lieu dédié aux sciences, on en parlait encore tout à l'heure, c'est un peu improbable dans Paris. Et finalement, tous les ingrédients étaient réunis pour que Camille s'installe au palais, et c'est ce qu'il a fait depuis, il y est toujours. Alors j'étais assez... à l'époque, intrigué par son enthousiasme indéfectible par rapport à ce palais. Et quelques temps après notre DEA, j'ai eu l'occasion de venir au Palais La Découverte avec des étudiants à moi qui étaient des futurs enseignants, donc qui se dédiaient à l'enseignement. Et mon objectif était que ces enseignants fassent faire davantage de sciences dans les classes. Et là, inutile de vous dire que mon objectif a été atteint quand on est allé au palais et qu'on a pu profiter de la salle d'électrostatique, par exemple. Le pouvoir des pointes, les cages de Faraday.
Oui, l'électromagnétisme aussi.
L'électromagnétisme, la salle d'acoustique.
Oui.
Je me souviens des expériences sur les vibrations. On avait travaillé aussi sur des expériences sur le vide.
Oui.
C'était très impressionnant, ces expériences-là. Donc, pour moi, l'affaire était bien, bien engagée avec mes étudiants. Alors, pour en revenir aux travaux de Camille, il a commis de nombreux articles. Je pense qu'on peut en décompter au moins 300. Je ne sais pas comment il fait pour faire ce genre de choses. Un certain nombre d'ouvrages aussi, alors dédiés au grand public, principalement, au jeune public aussi.
Oui, essentiellement jeune, très jeune pour le moment. Et bientôt, un livre qui va être assez proche de ce dont je vais vous parler ce soir, puisque ça va traiter des fraudes en science. Bien que ce soir, je ne vais pas uniquement parler des fraudes, je vais parler d'autres choses aussi.
Un ouvrage qui s'appelle Incroyable invention, ça c'est pour le,
oui,
le jeune public.
Pour les 8-12 ans. Oui.
Avec Jacques Guichard.
Ensuite, oui, alors vous avez Jacques Guichard qui a été un des anciens directeurs du Palais des Découvertes et qui est... il travaille avec Larousse, il m'a demandé d'écrire ce livre sur les inventions incroyables pour les enfants de 8-12 ans.
Un livre très intéressant.
Moi, ça m'a beaucoup amusé d'écrire ce livre, mais j'ai beaucoup peiné aussi. C'était très difficile, en fait.
De se mettre au niveau d'enfants de cet âge-là ?
Très difficile, à la fois de se mettre au niveau des enfants de 8-12 ans, et aussi, c'est un domaine qui n'est pas tellement le mien, puisque moi, je m'intéresse davantage à la science et à l'histoire des sciences, alors que ce livre-là porte davantage sur les inventions. Bon, ça m'intéresse aussi, mais ce n'est pas vraiment mon domaine de prédilection.
Alors, vous savez que ce soir s'ouvre un cycle nouveau à l'Agora, le deuxième cycle, avec un intitulé un petit peu différent, hein, qui est « Science incertaine et savoir flou, l'incertitude au cœur de la connaissance ». Alors, quand je relisais le livret, là, tout à l'heure, avant de venir, je me disais « Science incertaine et savoir flou, voilà bien une extravagance, finalement, alors que tout le monde sait que la rationalité et que l'objectivité sont les seuls guides de la construction scientifique ». Je m'étouffe un peu en disant ça, vous avez compris. Eh bien non, va nous expliquer Camille, qui va nous montrer et peut-être même nous démontrer, je pense, avec des exemples pris dans l'histoire des sciences, eh bien que les scientifiques ont des convictions, qu'ils ont des croyances qui ne sont pas toujours avouables, qui ne sont pas toujours objet de consensus d'un point de vue de la méthode, par exemple. On va rencontrer un certain nombre de personnages ce soir, et que ce sont ces croyances, que ce sont ces préjugés finalement qui guident leurs travaux et qui les conduisent à formuler un certain nombre d'erreurs, mais qui peuvent être des erreurs tout à fait fructueuses. Ça me fait penser à un ouvrage que j'aime beaucoup de Lokeneux, un historien de la physique, qui a écrit un petit livre qui s'appelle « La fécondité des erreurs », et je vous engage à regarder ça. Mais ça les conduit aussi finalement à de vraies fraudes, et je crois qu'on va aborder cette question-là ce soir. Alors, croyances, présupposés, culture, faire de la science, ça ne serait pas une certaine façon de penser que faire de la science, c'est une activité sociale comme une autre ? Bon, vous avez compris que je provoquais un tout petit peu les choses. Bon, en tout cas, revenons à nos moutons, et donc avec Camille, à qui je vais laisser la parole immédiatement, donc une conférence ce soir, erreur et fraude en science. Je te laisse la parole.
Merci Marianne. Est-ce que le micro fonctionne ? Oui. Hein. Tout d'abord, je voudrais remercier tous les organisateurs de l'Agora des Savoirs, et en particulier Muriel Gage, qui m'a invité à participer à ce cycle de conférences qui débute ce soir. Pour la petite histoire, Muriel disait qu'on s'était rencontrés dans les années 90 au cours de nos études supérieures en histoire des sciences. Ensuite, on s'est perdu de vue, tu n'as pas dit ça, et on s'est rencontrés tout à fait par hasard au cours d'un colloque en histoire des sciences en Grèce en juillet dernier, me semble-t-il. Et c'est à cette occasion que je lui ai dit un petit peu sur ce sur quoi je travaillais, en particulier le livre sur les fraudes. Et c'est à cette occasion que Muriel m'a proposé de participer à ce cycle de conférences. J'ai accepté et me voici. Donc je vais vous parler ce soir, j'ai intitulé mon intervention « Erreurs et fraudes en sciences ». Le titre n'est pas forcément très très bien choisi, mais bon, il n'est pas si mauvais que ça, vous verrez à la fin.
Je vais essayer, à travers cette intervention, de vous montrer que, de défaire, de déconstruire un mythe qui est très répandu auprès du grand public et qui est également répandu chez les scientifiques eux-mêmes, puisque les scientifiques eux-mêmes participent à propager ce mythe et même à l'entretenir. Alors, de quel mythe s'agit-il ? C'est le fait qu'on prétend que la science avance grâce à une activité intellectuelle extrêmement rationnelle, grâce à l'objectivité très poussée des scientifiques, grâce à leur honnêteté, grâce à leur humilité, etc. Enfin, rien que ça. Effectivement, alors non pas effectivement que les scientifiques sont rationnels, etc., etc. Effectivement, lorsqu'on regarde, lorsqu'on lit les ouvrages, les magazines, on écoute la radio, la télé sur des événements scientifiques, le sentiment qui s'en dégage, c'est que la science avance en s'appuyant justement sur cette rationalité, cette objectivité, etc. Ce que je vais essayer de vous montrer à travers des exemples, c'est que ça ne se passe pas toujours comme ça, peut-être même que ça ne se passe peut-être jamais même comme ça. Ça, c'est une forme très idéalisée des choses. Alors, il y a un autre volet, mais qui est tout à fait proche de ce que je viens de dire à l'instant. On l'enseigne même, me semble-t-il, aux tout-petits. Comment est-ce qu'une découverte est faite ? Comment est-ce que la science avance ? On dit souvent que, ou du moins c'est l'impression qu'on peut en tirer, c'est qu'on se pose d'abord une question, ensuite on fait une hypothèse, puis on teste cette hypothèse à l'aide d'une expérience. Est-ce que l'hypothèse est bonne ? Mauvaise ? On refait une hypothèse, on reformule. Progressivement, on établit une théorie. Laquelle théorie va faire des prédictions ? Ces prédictions, on va les tester grâce à des expériences qui vont confirmer ou infirmer la théorie. On va modifier la théorie. Voilà, en gros, l'image qu'on donne de la manière dont la science avance, alors que l'histoire des sciences montre qu'en fait, ça ne se passe pas du tout comme ça. C'est un processus beaucoup plus buissonnant, qui va un peu dans tous les sens, et qui est entaché de tous les défauts, des travers humains, puisque c'est une activité scientifique. Et à ce titre, en essayant d'aseptiser, de pasteuriser l'histoire des sciences, en racontant une histoire qui est totalement dépourvue de ces travers humains, je pense qu'on a tendance à déshumaniser l'activité scientifique, et je ne crois pas que ça soit une bonne chose pour encourager les jeunes à se lancer dans ce genre d'activité, puisque finalement, la représentation qu'on s'en fait de l'activité scientifique, c'est la boule de cristal parfaite, et pour arriver à pratiquer la science, il faut soi-même être parfait, être parfaitement rationnel, parfaitement objectif, sans idées préconçues, etc., etc. Je vais essayer de vous montrer à travers quelques exemples que ça ne se passe pas comme ça, puisque en fait, dans la plupart de ces découvertes, dans toutes ces activités que je vais vous montrer, activités scientifiques, intellectuelles, il y a des idées préconçues, il y a des convictions intimes, politiques, économiques, religieuses, philosophiques. Il y a des fraudes, il y a des données qui sont falsifiées, il y a des conflits d'intérêts, il y a de la jalousie, il y a de la chance, il y a vraiment tout ça, et c'est tout ça qui concourt et qui fait qu'il y a une découverte qui est réalisée. Avant de me lancer vraiment dans le vif du sujet, je vous invite à lire ces quelques lignes que j'ai extraites d'un livre de Richard Feynman, qui est un physicien, très grand physicien du XXe siècle, prix Nobel, qui a écrit ce livre « Lumière et matière », et dans lequel il parle un petit peu de l'histoire de la lumière. Je vous laisse le lire, ou je vais lire avec vous, puisqu'il parle dans ce passage-là de l'histoire. Il dit, soit dit en passant, ce que je viens de vous raconter là, c'est ce que j'appelle l'histoire de la physique des physiciens. L'histoire telle qu'ils se la racontent et qui est toujours fausse. Ce que je vous raconte là, c'est une espèce de saga conventionnelle que les physiciens racontent à leurs étudiants, et ainsi de suite. Cela n'a pas forcément grand-chose à voir avec le développement historique réel de la physique que j'ignore, évidemment. Il ignore, évidemment, puisqu'il n'est pas historien des sciences. À ce titre, il est assez curieux de noter qu'en science, on a tendance, le scientifique a tendance généralement à ignorer l'histoire de sa discipline et même presque être fier de ne rien connaître à l'histoire de sa discipline. Alors que si on regarde d'autres domaines, la littérature, l'art, la philosophie, il est impensable qu'un philosophe dise « moi je ne connais absolument rien à l'histoire de la philosophie » ou un artiste dise « je ne connais absolument rien à l'histoire de l'art » ou en littérature « je ne connais rien à l'histoire de la littérature ». En science, pour une raison qu'on pourrait débattre, il y a une volonté d'ignorer le passé. Et qui fait que, en ignorant le passé, à mon avis, on commet les erreurs justement du passé, puisqu'on ne connaît pas le passé. Donc, je vais passer maintenant à mes quelques exemples, et je vais commencer par Newton. Newton est l'archétype du scientifique, du savant, qui est vraiment très rigoureux, le mathématicien qui va découvrir, vous le savez, la loi de la gravitation. Mais ce qu'on connaît moins, c'est que, en fait, Newton est un grand mystique, et c'est de ça que je vais essentiellement parler dans la suite. Simplement pour un peu situer les choses, c'est vers 1670 que Newton devient très célèbre à son époque, puisque c'est à ce moment-là, en 1670 ou presque, qu'il invente le télescope. Cette invention fait qu'il devient vraiment très célèbre, il entre dans l'équivalent de l'Académie des sciences en Angleterre. Et très vite, il commence à s'intéresser à la mécanique. Un de ses amis, Halley, le même la comète de Halley, le pousse à rédiger un ouvrage, qui sont les Principia. Il rédige ça en 1687. Et dans cet ouvrage, il parle de beaucoup de choses. Il parle des lois des collisions, il parle un petit peu de mécanique des fluides, et surtout, il parle de la gravitation, de la loi de la gravitation. Qui, vous le savez, on l'apprend à l'école, hein, à partir du moment où on prend deux masses, les deux masses s'attirent, il y a une force attractive entre les deux masses qui est proportionnelle à ces deux masses et qui est inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. Ça, c'est la loi de gravitation que Newton découvre. Mais comment arrive-t-il à cette découverte ? Et bien, vous allez voir, il arrive d'une manière totalement inattendue. Ce n'est pas du tout rationnel, la manière dont il aboutit à cette découverte. C'est, comme je le mets ici, c'est une pensée qu'on peut vraiment qualifier d'irrationnelle, qui s'appuie sur la théologie, l'alchimie, la magie, et qui finalement le guide vers la bonne solution. Alors pour comprendre comment il arrive à ça, il faut savoir que Newton était quelqu'un qui était persuadé d'une chose. Il était persuadé que les anciens, il y a 2000 ans, 3000 ans, les anciens avaient compris la vérité. Et que cette vérité, au fil des siècles, a été progressivement perdue, mais que cette vérité est écrite dans les livres, dans les livres que les prophètes, les prêtres ont écrits dans le passé, mais ils l'ont écrit sous forme codée, cryptée, de sorte que le commun des mortels ne puisse pas comprendre ce qui est écrit dedans, sauf les initiés. Et lui, il estime qu'il a les capacités intellectuelles pour arriver à décrypter ces messages codés qui sont écrits dans ces livres pour comprendre la vérité qui gouverne le monde. Et l'une des choses qui intéresse Newton, évidemment, c'est le mouvement des planètes. Il faut savoir qu'à cette époque, c'était Descartes qui avait ces idées, ces théories sur le mouvement des planètes. Il avait à l'époque, on pensait de manière... La pensée rationnelle de l'époque voulait afin que un objet agisse sur un autre, afin que le clou s'enfonce dans le mur, il faut que le marteau frappe le clou. Il faut qu'il y ait un contact entre les deux. Une action à distance est quelque chose de totalement impossible dans la pensée rationnelle de l'époque. Bon, ça, c'était une petite parenthèse concernant ce que les gens pensaient. Newton, lui, il commence à s'intéresser à l'alchimie. Il se dit dans un premier temps que, sans doute, il doit y avoir une alchimie entre les planètes. Il va réussir à découvrir comment les planètes s'influencent les unes les autres. Et à travers ces influences qui vont être multiples, à cette époque, quand il démarre ses recherches, ce qu'il pense, c'est que l'influence que la Terre exerce sur la Lune est de nature différente que l'influence que le Soleil exerce sur la Terre, que la Lune exerce sur Mars, que Jupiter exerce sur le Soleil, etc. Donc il part dans une alchimie planétaire, en quelque sorte. Et il finit par aboutir à quoi ? Il finit par aboutir au fait que, finalement, toutes ces influences sont parfaitement identiques. Et il aboutit à la loi de la gravitation que j'ai citée tout à l'heure, que vous connaissez. Mais alors, quelle est la chose qui lui permet d'aboutir à cette, d'avoir cette idée? C'est qu'en ayant pas mal réfléchi, pas mal lu, les livres des alchimistes, les livres des magiciens, dans la mesure où les magiciens étaient tout à fait aptes à accepter l'action à distance, que la pensée rationnelle refusait totalement, Newton est prêt à accepter que peut-être qu'il y a une influence qui s'exerce entre les planètes, entre les masses, et qui se fait à distance, sans contact, comme le pense Descartes. Voilà comment cette idée totalement irrationnelle pour l'époque d'action à distance qu'il a puisée chez les magiciens lui permet de penser cette théorie de la gravitation dans laquelle les masses s'attirent à distance alors qu'il n'y a rien qui les met en contact avec un vide entre elles. Malheureusement, cette théorie de Newton souffre de deux défauts. Premièrement, quand il présente sa théorie en 1687, ce qu'on lui reproche, c'est qu'on lui dit que, oui, d'accord, ton histoire a l'air d'à peu près de marcher, mais c'est quand même, tu fais appel à des principes occultes, puisqu'il s'agit d'une action à distance, et ça, c'est de la magie, c'est pas de la physique. Newton se défend en disant, oui, d'accord, c'est peut-être occulte, mais enfin, ça marche. Moi, j'ai trouvé une recette, finalement, qui marche. Et on lui dit que non, ça ne marche pas si bien que ça. Et en effet, ça ne marche pas si bien que ça. C'est-à-dire que les descriptions qu'il fait des expériences et la théorie à laquelle il est arrivé, on s'aperçoit que la théorie telle qu'il est en train de l'écrire, et compte tenu de la masse de la Lune qu'il estime, etc., etc., les mouvements ne correspondent pas vraiment à ce qu'on devrait obtenir. Autre chose, dans ce même livre des Principia, à un moment, il calcule la vitesse du son, et où il ne trouve pas tout à fait la vitesse du son qu'il faut. Donc on se dit, tout ça, ça a l'air d'être pas, ça tient pas très bien debout. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait dans la deuxième édition des Principia? Il triche. Alors là, c'est une vraie fraude. Il modifie les données, il modifie les masses, il modifie les distances, il modifie les temps, de sorte que ça colle parfaitement à sa théorie. Et à partir de cette deuxième édition, les gens qui n'étaient pas tout à fait satisfaits des résultats de Newton en 1687, à partir de 1713, je pense que c'est la date de la deuxième édition, on se dit, oui, là, ça a l'air de coller. Mais ça colle parce qu'il a triché. Ce que je veux vous montrer à travers cet exemple avec Newton, c'est que premièrement, sa pensée est totalement irrationnelle, et deuxièmement, il y a clairement pas mal de fraude dedans. Concernant la vitesse du son, pareil, il modifie les chiffres, il rafistole et il trouve pile 340 mètres par seconde pour la vitesse du son, c'est la vitesse qu'on avait mesurée à l'époque et qui correspond effectivement à ce qu'il faut trouver. Mais en faisant pas mal de triches, en trichant pas mal. Imaginez qu'aujourd'hui, un étudiant thésard arrive devant son directeur de thèse et lui dise « Voilà, j'ai envie d'étudier la cosmologie, un tel événement du Big Bang, mais j'ai envie d'étudier les livres des alchimistes du XIVe siècle. » Bon, c'est ça. On va considérer que c'est totalement irrationnel, il ne peut pas faire ça. Newton le fait et ça marche. Le deuxième exemple, c'est le siècle suivant. Là, il s'agit pas vraiment de fraude, je dirais, mais carrément d'une imposture. Vous connaissez certainement cette histoire du cerf-volant de Benjamin Franklin. À cette époque, le XVIIIe siècle, c'est l'époque de l'électrostatique. On s'intéressait beaucoup aux phénomènes électrostatiques. On avait des machines électrostatiques qui permettaient d'obtenir de petites étincelles en laboratoire. Et en comparant les étincelles de laboratoire de quelques centimètres avec la foudre, beaucoup de gens étaient arrivés à la conclusion que vraisemblablement, la foudre est un phénomène électrique, électrostatique, de même nature que les petites étincelles de laboratoire. Sachant que les étincelles de laboratoire ont tendance à tomber sur des pointes métalliques, on se dit que si la foudre est un phénomène analogue, la foudre devrait également tomber sur des pointes métalliques, d'où l'idée de l'invention du paratonnerre. L'histoire dit que Benjamin Franklin aurait envoyé un cerf-volant partant orageux sous un nuage. Il aurait tenu ce cerf-volant avec une corde. et que le cerf-volant virevoltant au voisinage du nuage orageux, il s'était à son tour électrisé et que Franklin aurait récupéré une petite décharge électrique au niveau d'une clé qu'il avait accrochée en bas au niveau de la corde. Bon. Alors quand on essaie de voir d'où sort, sur quoi repose cette histoire, on est surpris de constater qu'en fait elle ne repose quasiment sur rien, à part deux témoignages vraiment très 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 maigres. Le premier témoignage, c'est quoi ? Le premier, c'est Franklin lui-même. Franklin lui-même qui, alors la date est importante, essayez de la retenir, je la répéterai tout à l'heure, en octobre 1752. En octobre 1752, il annonce qu'il vient de faire cette expérience. Bon. En fait, dans l'annonce, il ne dit pas qu'il a fait l'expérience. Il dit beaucoup de choses, et ça c'est la partie qui nous intéresse. Il dit... Il serait sans doute intéressant pour le curieux d'apprendre que la même expérience réussie à Philadelphie, c'était une expérience de paratonnerre ordinaire, bien que réalisée d'une manière différente et plus facile que n'importe qui peut essayer comme suit. Alors, qu'est-ce qu'il raconte à la suite ? Le cerf-volant. Comment construire un cerf-volant ? Nanana, nanana, nanana.
Si on regarde ce qu'il a écrit ici, il y a plusieurs choses qui sont étonnantes. Premièrement, vous voyez, il ne dit pas qu'il a fait l'expérience. Il dit la même expérience a réussi à Philadelphie. Attendez. Il est intéressant d'apprendre que la même expérience a réussi à Philadelphie, bien que réalisée de manière différente et plus facile que n'importe qui peut essayer comme suit. Voilà. Il ne dit pas qu'il a fait l'expérience avec le cerf-volant. Il dit que l'expérience a été faite. Bon, ça c'est déjà une chose. La deuxième chose qui est louche, c'est qu'il ne précise pas quand, où, qu'est-ce qu'il a vu, rien. Rien n'est dit à ce propos non plus. La troisième chose qui est étonnante, c'est que lorsqu'il annonce cette expérience du cerf-volant, d'abord dans une gazette, puis c'est publié dans un équivalent d'une publication Académie des sciences aux États-Unis, un certain nombre de ses collègues avec qui il était toujours en correspondance, à qui il disait toujours ce qu'il était en train de faire, à quoi il était en train de réfléchir, lui écrivent et lui disent « Mais tu ne nous as jamais parlé de ça. Qu'est-ce qui se passe tout d'un coup ? D'où est-ce que pourquoi tu ne nous as jamais parlé de cette si belle expérience ?» Donc il y a trois choses qui paraissent un petit peu louches dans cette histoire. Défaut de manque de précision, il n'en a pas parlé à aucun de ses collègues. Et le fait qu'il ne dit pas explicitement qu'il a fait réellement l'expérience. Donc, on est déjà un petit peu sur un terrain un petit peu douteux, on va dire. Alors, ce qui est amusant ensuite, c'est que dans cette lettre qu'il publie dans le périodique, l'équivalent de l'Académie des sciences aux États-Unis, la lettre qui suit le communiqué de Franklin, c'est donnée par quelqu'un d'autre, un autre scientifique qui s'appelle Watson. Et Watson dit la chose suivante. Il dit que les expériences d'électrostatique ne peuvent pas marcher, ne peuvent pas fonctionner correctement quand il pleut, quand tout est mouillé. Effectivement, on le sait très bien, ça, dès l'instant où c'est très humide, dès l'instant où tout est mouillé, on a du mal à tirer des étincelles. Or, Franklin, lui, qu'est-ce qu'il prétendait ? Il prétendait que quand on envoie le cerf-volant sous le nuage orageux, il faut attendre la pluie pour que la pluie rende la corde humide, pour que la corde conduise l'électricité, et c'est seulement à ce moment-là, dit Franklin, qu'on peut tirer une étincelle en bas. Eh bien non, justement, s'il commence à pleuvoir, c'est sûr qu'on ne peut plus faire l'expérience. Donc on a vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose qui ne colle pas dans cette histoire de Franklin. Le deuxième témoignage de cette expérience du cerf-volant, ça vient 15 ans après, en 1767, par son ami chimiste Priestley, qui est en train d'écrire un livre sur l'histoire de l'électricité. Priestley écrit que Franklin a fait cette expérience au mois de juin 1752. J'espère que vous vous souvenez. Communiqué de Franklin, c'est octobre 1752. Maintenant, 15 ans après, alors qu'entre-temps, plein de gens lui ont demandé « Dis-nous, quand est-ce que tu as fait l'expérience exactement ? C'était quand ? C'était où ? » etc. Rien du tout, il n'a rien précisé, il n'a jamais répondu à aucune lettre. Tout d'un coup, 15 ans après,
on apprend dans le livre de Priestley que c'était au mois de juin 1752. Et on apprend quoi d'autre? On apprend qu'en plus, il y avait un témoin. Ah bon? C'était qui? C'était son fils, paraît-il. À cette époque, son fils avait 21 ans. Donc déjà, vous voyez les dessins qu'on fait. Il n'a pas 21 ans, ce gamin-là. Bon. Il y a des trucs qui ne collent pas dans cette histoire. Et alors, la chose qu'on apprend par la suite, c'est que ce passage du livre de Priestley, pour écrire ce passage, auprès de qui Priestley s'est renseigné? Franklin lui-même. Donc c'est encore Franklin. Bon. Maintenant, si on essaie de reconstruire l'histoire, à quoi on aboutit? On aboutit au fait que tout ce que Franklin a raconté sur l'histoire ne tient pas debout. En plus, il y a un fait physique qui ne peut pas marcher. Quand il pleut, on ne peut pas tirer l'étincelle. Maintenant, on peut se dire, bon, alors il a peut-être inventé une histoire. Il a simplement raconté qu'il avait fait l'expérience. En fait, il ne l'a jamais faite. Alors, pourquoi aurait-il prétendu avoir fait l'expérience? Pour la raison suivante. Vous vous souvenez des dates? Octobre 1752, il annonce qu'il a fait l'expérience. Puis, il dit que l'expérience a été faite en juin 1752. Or, au mois de mai 1752, le 10 mai et le 18 mai 1752, en France, l'expérience du paratonnerre venait d'être réalisée pour la première fois. Du coup, si Franklin dit qu'il a fait... Franklin qui est aux États-Unis, hein, il n'est pas en France. Si Franklin dit qu'il a fait l'expérience au mois de juin, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas été au courant de ce qui a été fait à Paris, puisque le temps de communiquer entre Paris et les États-Unis, à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas téléphone portable, ça prenait bien 7 semaines. Donc en prétendant 15 ans plus tard que l'expérience a été faite au mois de juin, il est en train de dire que, oui, les Français, d'accord, ils ont fait l'expérience du paratonnerre à Paris au mois de mai 1752, mais moi, je l'ai fait au mois de juin et je n'étais même pas au courant de ce qui avait été fait. Et du coup, il devient un co-découvreur. Et ce qui est amusant quand on lit le livre de Priestley sur l'électricité, c'est que c'est précisé ça. Il est dit que Franklin a fait l'expérience au mois de juin 1752 sans être au courant de ce qui avait été fait à Paris au mois de mai 1752. Donc on en sort finalement assez convaincu que ça, c'est une expérience totalement inventée, qu'il n'a jamais réalisée, il l'a projetée, il a prévu un résultat et il s'est trompé sur le résultat puisqu'il ne faut justement pas qu'il pleuve pour qu'on puisse tirer l'étincelle en bas. Donc là, il s'agit de carrément une imposture. On passe maintenant à Oersted. Oersted, c'est, dont nous sommes maintenant au 19e siècle, 1820. Il est le premier à découvrir que dès l'instant où on fait passer un courant électrique dans un fil, alors en 1820, comment est-ce qu'on fait passer un courant dans un fil? C'est pas compliqué, on prend une pile. La pile a été inventée en 1800. Donc entre 1800 et 1820, ça faisait 20 ans que les gens étaient capables d'expérimenter avec les courants électriques. En 1820, Oersted, c'est un Danois, il se rend compte que si le fil parcouru par un courant est placé au voisinage d'une boussole, alors l'aiguille de la boussole s'affole au moment où le courant passe, et plus précisément, si l'aiguille de la boussole est placée juste sous le fil ou juste au-dessus, cette aiguille se place perpendiculairement au fil. Et là, il découvre du coup une relation entre l'électricité, puisqu'il s'agit d'un courant électrique, et le magnétisme, puisque l'aiguille de la boussole est affolée. Pendant très longtemps, on a pensé, et on peut le lire encore dans beaucoup d'ouvrages, que cette découverte avait été faite par hasard. C'est par hasard qu'il a découvert que le courant en passant dans le fil fait dévier l'aiguille de la boussole. En fait, alors on sait aujourd'hui que non, ce n'est pas du tout par hasard. C'était en fait il était dans un projet expérimental pour trouver un lien entre électricité et magnétisme. L'histoire du hasard, c'est simplement un de ses collègues qui l'a inventé quelques temps après, dans une lettre qu'il a écrite à Faraday en 1857, en disant que Oersted a découvert le phénomène en 1820 un peu par hasard pendant un cours. Il s'est tout d'un coup dit, tiens, quand je fais passer un courant, l'aiguille de la boussole dévie. Bon, ça c'est une petite parenthèse pour dire d'où vient ce mythe du hasard dans la découverte de Oersted. Maintenant, comment les choses se sont réellement déroulées? Oersted, c'est quelqu'un qui a une formation solide en philosophie. Il s'intéresse beaucoup à la philosophie de Kant. Pour Kant, il a même fait sa thèse sur les écrits de Kant. Pour Kant, il n'y a pas d'atome. Il est anti-atomiste, Kant. Et à partir du moment où vous considérez qu'il n'y a pas d'atome, les atomes étant là pour rendre les choses discontinues, si vous dites qu'il n'y a pas d'atome, c'est-à-dire que vous êtes plutôt favorable à la continuité des choses. Si vous êtes favorable à la continuité des choses, progressivement, vous pouvez vous dire qu'on peut passer d'une chose à l'autre assez facilement. Alors, Oersted, il était dans cette idée-là qu'il n'y a pas d'atome, il y a continuité entre tout. À la même époque, il y avait un courant de pensée, un petit peu plus ou moins littéraire, poétique, un peu scientifique, on va dire, mais qui avait quand même réussi à influencer pas mal de scientifiques, et qui était que, de la même manière qu'on peut passer d'une chose à l'autre, il n'y a pas non plus de discipline. Il y a, entre la littérature, entre l'art, la musique, les maths, la physique, tout ça se mélange. Tout ça, c'est un. Il n'y a pas vraiment de frontière. En tout ça, ça se mélange aussi. Et si on veut un petit peu résumer en quelques mots l'idée centrale de cette pensée à cette époque, c'est qu'on devrait pouvoir trouver un peu de tout dans tout. Voilà. On devrait pouvoir trouver un petit peu de je sais pas, un petit peu de lumière en chimie, un petit peu d'électricité en magnétisme, un petit peu de chaleur en électricité, un petit peu d'électricité en chaleur, etc. etc. D'ailleurs, Ritter, qui est un Allemand qui est très versé dans ce genre de pensée, c'est un physicien chimiste allemand, en 1801, il découvre une influence de la lumière sur certaines réactions chimiques. Donc là, Ritter a réussi, grâce à cette pensée un petit peu, j'allais dire, un peu fumeuse, à trouver un lien entre chimie et lumière. Bon, ben, Oersted, il est dans la même idée. Lui, il veut trouver un lien entre électricité et magnétisme. Et donc, il est en train réellement de chercher à trouver ce lien parce qu'il veut établir des ponts entre un peu tout. D'ailleurs, Oersted dit à un moment, c'est amusant parce que quand on fait passer un courant électrique dans un fil, le fil chauffe. Donc voilà, il a trouvé un lien entre électricité et chauffage. Puis il dit, si on prend un fil très fin et on fait passer dans un courant intense, le fil devient lumineux. Ah ben voilà, maintenant électricité et lumière. Bon, ben, il ne reste plus qu'à trouver encore maintenant le dernier lien, électricité et magnétisme. Et il découvre le lien entre électricité et magnétisme. Mais ce n'est pas du tout par hasard comme on l'a cru pendant longtemps, c'est parce qu'il est réellement dans cette pensée. Maintenant, par rapport à notre sujet de ce soir, Oersted, comment il se place ? Simplement par le fait que, d'accord, ce n'est pas un mystique, ce n'est pas totalement irrationnel son approche comme Newton, mais tout de même, simplement partir sur une idée plus ou moins philosophique, philosophico, je ne sais pas, en disant qu'il doit y avoir un petit peu de tout dans tout, donc un peu. Il y a abouti tout de même d'une manière qui n'est pas très, très, très rigoureuse et rationnelle. Il y a quand même une part d'irrationnel dans sa façon de penser. Malgré tout, ça marche. L'autre exemple, c'est Louis Pasteur. Alors, Pasteur, c'est encore une autre histoire. Pasteur, ce qui va m'intéresser, c'est le débat qu'il a eu entre 1859 et 1864, contre Pouchet, biologiste. Pouchet, il était pour la génération spontanée. Pasteur était contre la génération spontanée. Alors, c'est quoi la génération spontanée ? Depuis déjà l'Antiquité, il y avait des gens, des penseurs qui pensaient que la vie peut naître à partir du non-vivant. Par exemple, on disait que les grenouilles peuvent naître dans de la boue. Bon, ben ça, une grenouille qui naît dans la boue, c'est de la génération spontanée. Mais remarquez que là, la grenouille naît de quelque chose qui est non vivant. La boue, elle n'est pas vivante elle-même. Il y en avait d'autres qui disaient que non, on ne peut pas naître du non vivant comme ça. Si on naît, peut-être qu'on naît du non vivant, mais ce non vivant était en fait un vivant mort. Je m'explique. Il disait par exemple que les abeilles peuvent naître du corps d'un bœuf en putréfaction. Bon, si le bœuf est en putréfaction, c'est qu'il est mort. Mais avant, il n'était pas mort. Donc, c'est quand même un être vivant qui est mort. Ce n'est pas la même chose de naître de la boue. Enfin, bon, il y avait plein de variétés de générations spontanées. Et au fil des ans, au fil des siècles, on était arrivé, certains biologistes étaient arrivés à vraiment complètement rejeter la génération spontanée, d'autres en étaient arrivés à toujours maintenir la génération spontanée. Parmi les gens qui maintenaient la génération spontanée, par exemple, il y a Lamarck, et puis il y a Pouchet. Entre-temps, Et puis, je ne peux pas trop détailler les choses, mais peut-être que tout à l'heure, nous pourrons en parler. On avait associé la génération spontanée à « si vous êtes pour la génération spontanée, alors vous êtes athée. Si vous êtes pour la génération spontanée, alors vous êtes matérialiste. Si vous êtes pour la génération spontanée, alors vous êtes anti-monarchiste. » Voilà. Bon. Leur pasteur dit « attends, moi je ne suis pas anti-monarchiste, je ne suis pas matérialiste et je ne suis pas athée. Donc je ne suis pas pour la génération spontanée. » En partie, je ne dis pas que tous ces arguments reposent là-dessus. Mais en tout cas, ça colle. En 1859, Pouchet publie un livre de 700 pages dans lequel il dit que il a... Attends, 1859, c'est la date du livre « L'origine des espèces » de Darwin. En 1859, Pouchet dit, dans ce livre de 700 pages, qu'il a fait un certain nombre d'expériences dans lesquelles il voit de la génération spontanée. Alors, quelles sont ces expériences? Il prend des infusions de foin, il fait bouillir ces infusions de foin, ensuite, il met l'infusion de foin bouillie, donc absent de toutes sortes de germes, en présence d'air. Mais pas de l'air de la salle, de l'air qu'il a fabriqué chimiquement. Il fabrique de l'oxygène, du dioxygène chimiquement, il fabrique lui-même du diazote chimiquement, et c'est cet air-là qu'il met en présence de ces infusions. Donc ça, c'est de l'air parfaitement pur, il n'y a pas de germes là-dedans. Et quelques jours après, il constate qu'il y a des petites bestioles là-dedans. Alors Pasteur lui dit, oui, c'est pas possible la génération spontanée, c'est que tu t'es trompé quelque part en manipulant, peut-être que tu avais les mains sales. Bon. Alors il refait la manip, puis Pasteur dit, non, tu t'es trompé peut-être là. Il refait. Enfin, au fil des ans, l'expérience de Pouchet devient de plus en plus irréprochable. En 1864, il est en train de faire, à ce moment-là, Pouchet, une expérience totalement irréprochable. Et pourtant, il voit encore des petits germes, des petites animalcules au microscope apparaître dans le liquide. Alors maintenant, il y a deux manières de voir les choses. Si vous êtes pour la génération spontanée, vous dites, bon, voilà, ça, c'est la preuve qu'il y a une génération spontanée. Si vous êtes contre la génération spontanée, c'est qu'il a forcément manipulé mal. Comme Pasteur était contre la génération spontanée, il continue de dire, je ne sais pas où, mais tu t'es planté quelque part, c'est forcé. Bon. Alors Pouchet continue d'essayer de se défendre, mais en 1864, Pasteur fait un show à la Sorbonne, vraiment un grand spectacle, devant des académiciens, en montrant que, voilà, moi j'ai fait cette expérience de Pouchet, la voici, et regardez, il n'y a pas du tout de germes dedans. Et il réussit, grâce à cette très belle mise en scène, à convaincre tout le monde que, oui, Pouchet s'est forcément planté quelque part. Le problème, c'est que Pasteur ne fait pas l'expérience de Pouchet. Si vous avez bien écouté ce que je vous ai dit, avec quoi est-ce que Pouchet faisait ses expériences? Il démarrait avec du foin. Pasteur ne démarre pas avec du foin, il démarre avec des levures. Il se trouve que si Pasteur avait fait l'expérience comme Pouchet avec du foin, eh bien Pasteur aurait trouvé qu'effectivement, il y a des animalcules qui apparaissent dedans. Mais maintenant, on sait à l'avance ce que Pasteur aurait dit s'il avait fait cette expérience. Pasteur aurait dit, je me suis certainement trompé quelque part. Il ne peut pas y avoir de génération spontanée. Mais du coup, on se demande, quelle expérience faut-il faire pour qu'ils soient enfin convaincus qu'il y a peut-être une génération spontanée? Donc Pasteur prétend qu'il démarre sans idée préconçue, mais en fait, il est convaincu d'une chose, qu'il n'y a pas de génération spontanée, c'est ça l'idée préconçue. Et ce qu'on découvre beaucoup plus tard dans les écrits de Pasteur, dans ses carnets de laboratoire, c'est qu'en fait, il faisait les expériences de Pouchet, mais dans 90% du temps, il trouvait la même chose que Pouchet. Il était donc obligé d'admettre qu'il y a une génération spontanée, sauf qu'il n'y croyait pas. Donc, à chaque fois qu'il obtenait un résultat qui n'était pas conforme à ce qu'il croyait, il mettait le résultat de côté. Et ça va même plus loin, puisque Pasteur finit dans ses carnets de laboratoire par écrire que tous ces résultats qui n'étaient pas conformes à ses pensées, à ses convictions intimes, il a décidé de ne pas les publier parce que c'était trop grave. Bon, alors vous allez me dire, mais alors finalement, il y a ou il n'y a pas génération spontanée? Non, il n'y a pas génération spontanée. Simplement, les germes qui peuvent se développer sur le foin peuvent résister à l'eau bouillante, alors que les germes qui se développent sur la levure ne peuvent pas résister à l'eau bouillante. Si bien que Pouchet, il faisait les choses effectivement correctement. Simplement, il y avait des germes qui résistaient à l'eau bouillante. On a découvert ça une quinzaine d'années plus tard, en 1876. On a découvert ces germes hautement résistants à haute température. Mais strictement parlant, si on voulait être rigoureux, eh ben, il fallait admettre qu'il y a génération spontanée ou qu'il y a des bestioles qui résistent à l'eau bouillante et non pas, comme Pasteur, mettre ces choses-là de côté. Ce qui est amusant aussi dans l'histoire, c'est que Pasteur, qui disait qu'il était qu'il n'était pas matérialiste, en fait, par la suite, on a découvert que, en cachette, entre guillemets, dans les années 1860, il a pas mal de fois tenté d'obtenir la vie à partir de réactions chimiques. Donc lui-même, il était en train d'essayer d'obtenir la vie à partir du non-vivant. Mais bon, il prétendait le contraire. Seulement, il a avoué ça quand le régime a changé. Ben oui, parce que tant que c'était le Second Empire, il n'avait pas envie de dire que, oui, moi je cherche à... Mais une fois qu'après 1870, Troisième République, là, il a commencé à dire, si, moi j'ai fait des recherches pour essayer de mettre du vivant. Enfin, bon. Un autre exemple, Thomas Edison, mais cette fois, ça relève de l'ingénierie. Ça, c'est une histoire assez amusante aussi. Ça faisait longtemps que les gens s'intéressaient aux lampes à filaments. Mais le problème des lampes à filaments, c'était que les filaments qu'on employait, c'était généralement des filaments de carbone. Et quand on faisait passer le courant dedans, le carbone chauffait et la face intérieure des ampoules noircissait. Et on pensait que ce noircissement est dû au fait qu'en chauffant le filament de carbone, il y a des atomes de carbone qui se volatilisent, hein, qui s'évaporent et qui viennent se déposer sur la face intérieure de l'ampoule et qui noircissent cette ampoule. C'est la raison pour laquelle Edison décide d'abandonner les filaments de carbone et s'intéresser aux filaments métalliques, de platine notamment, enfin plein de... En tout cas, métalliques. Un autre, qui s'appelle Joseph Swan, lui, il se dit, moi, je vais continuer avec les filaments de carbone parce que ce n'est pas le chauffage du filament de carbone qui fait que les atomes s'évaporent, c'est peut-être autre chose. Et effectivement, en cherchant bien, il s'aperçoit que c'est autre chose. En fait, Swan découvre que quand vous prenez un fin filament de carbone, en fait, à l'intérieur, si on regardait au microscope, je ne pense pas qu'il ait fait ça lui-même, mais il arrive à la conclusion qu'en fait, dans ce filament, il y a plein de microscopiques bulles d'air. Bon. Quand on chauffe le filament, ces bulles d'air, on les chauffe aussi, les bulles gonflent, et en gonflant, paf, ça fait partir des petits morceaux de carbone qui viennent se coller ensuite sur la face intérieure de l'ampoule. Afin d'éviter cet éclatement, en quelque sorte, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut éliminer l'air qu'il y a dans les bulles. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord, avant de mettre le filament, faire passer un courant dans l'ampoule, il faut d'abord mettre ce filament sous une cloche à vide, faire un vide très poussé, pour retirer tout l'air qui est à l'intérieur, et seulement après, l'utiliser pour les filaments dans une lampe. Et effectivement, c'est ce que fait Swan, et ça marche. Alors, maintenant, quelques dates. Ils démarrent tous les deux en 1877. En octobre, là je vais vous donner encore des dates, je suis désolé, il faut noter. En octobre 1878, donc un an après, Swan a réussi à obtenir une lampe. Elle marche, mais pas tout à fait, parce que, bon, enfin, c'est clair, il est sur la bonne voie, et il met encore un an pour mettre au point une lampe parfaite, claire, qui dure, et comme il faut. Et donc, si vous ajoutez un an plus un an, on arrive en décembre 1879. En décembre 1879, Swan, il a sa lampe comme il faut. Rappelez-vous, ils démarrent tous les deux en 1877. En 1878, lui, il a déjà une lampe. Edison, en septembre 1878, Edison dit, ça y est, j'ai une lampe à filament métallique, ça marche très bien. Ah bon? Tout le monde croit Edison, ah, il a sa lampe, et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Parce qu'il ajoute quand même... Et il y a encore des petits trucs que je dois encore un petit peu améliorer. J'ai besoin d'argent. Donc les banques lui donnent de l'argent. Pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il fasse en fait les recherches qu'il n'a pas encore faites. Parce que, en fait, à cette date, quand Edison annonce en septembre 1878 qu'il a une lampe, en fait, il ne l'a pas. C'est un coup de bluff. Il n'a pas la lampe. Simplement, il dit ça pour avoir de l'argent. Une fois qu'il a l'argent, il commence à faire ses recherches sur les filaments de lampe. Et nous arrivons maintenant en juillet 1879. Donc depuis septembre 1878, jusqu'en juillet 79, en gros 10 mois après qu'il ait annoncé qu'il a la lampe, on ne voit toujours aucune lampe. Il n'a présenté aucune lampe. Si bien que, en cette même année 1879, il y a un auteur d'un bouquin que j'ai à la maison qui écrit la chose suivante. Il prend un malin plaisir à faire attendre les curieux sous prétexte des perfectionnements qu'il est sur le point de réaliser, mais que nous croyons exister dans son imagination. Effectivement, 10 mois après, il n'a toujours pas montré une seule lampe. Alors, entre-temps, qu'est-ce qui se passe ? En juillet 79, lorsque Edison s'aperçoit qu'il n'arrive pas, ça ne marche toujours pas, ces histoires, il se dit, bon, il faut faire autrement. Ça fait 10 mois que les gens attendent, j'ai reçu de l'argent des banques, etc. Je vais faire autrement. On va commencer à lire toutes les publications écrites sur les lampes. On va tout décortiquer. Et en lisant toutes ces publications, sur quoi il tombe ? Il tombe sur un des écrits de Swan qui dit qu'il a pris un filament de carbone, il a fait le vide, nanana, nanana. À ce moment-là, en juillet 79, Edison se dit « on n'a qu'à faire comme Swan ». Il bascule vers les filaments de carbone, et en décembre 79, comme Swan, il a sa lampe. Bon. Une fois qu'il a la lampe, il commence à produire les lampes, immédiatement après, il dit, il a copié sur moi, Swan, regardez, il est en train de faire les mêmes lampes que moi j'étais en train de faire. Évidemment, Swan se défend, procès, nanana, et le résultat, c'est quoi ? Le résultat, c'est un boomerang, ça retourne contre Edison, parce que Swan, il a suffisamment d'éléments pour prouver qu'il était là avant lui, et finalement, Edison est obligé de produire les lampes en collaboration avec la société de Swan, et les lampes à ce moment-là s'appellent des lampes Edison. À partir de là, Edison intente un grand nombre de procès contre tous les concurrents, y compris Swan. Il perd tous les procès les uns après les autres concernant les lampes, sauf un procès qu'il gagne, qui est celui-ci. On admet qu'il est l'inventeur du filament de carbone haute résistance. Beaucoup plus tard, au XXe siècle, on s'aperçoit que même ça, on n'aurait pas dû lui accorder, parce qu'afin d'obtenir ce résultat, Edison avait été obligé d'arracher quelques pages de ses carnets de laboratoire, pages dans lesquelles il disait que, en fait, il a vu la chose chez Swan et il est en train de perfectionner. Donc, ce n'était pas une réelle invention qu'il venait de faire, il était simplement en train de perfectionner ce que Swan avait déjà fait. Donc là, vous voyez, cette fois encore, on n'est pas tellement dans le domaine scientifique, mais c'est plus de l'ingénierie, de l'invention. Mais tout de même, là, il est question de gloire. C'est pour la gloire, pour l'argent que... J'arrive maintenant à Einstein. Ça, c'est une expérience peu connue d'Einstein. Einstein, c'est surtout un théoricien, ce n'est pas tellement un expérimentateur. En 1915, un peu par hasard, il entre en contact avec ce monsieur qui s'appelle Van der Te Haas, et ils se lancent tous les deux à faire l'expérience suivante. Alors, l'expérience, elle est très simple à exprimer. Si vous prenez un barreau de fer, en fer, non aimanté, puisque c'est en fer, il peut s'aimanter. La théorie dit que si je prends ce barreau de fer vertical et je l'aimante tout d'un coup, mettons nord en haut, sud en bas, ou peu importe, nord en bas et sud en bas, peu importe le sens, si je l'aimante, au moment où il s'aimante, le barreau doit tourner sur lui-même, dans ce sens ou dans l'autre, selon le sens dans lequel on l'a aimanté. C'est ce qu'on appelle l'effet gyromagnétique. Bon. Alors ici, sur ce schéma que je vous ai présenté, vous avez le barreau de fer. Évidemment, la rotation n'est pas énorme, c'est une petite rotation. Donc pour voir si le barreau a tourné, il faut poser dessus un miroir, on envoie dessus un faisceau de lumière et on voit si le faisceau de lumière est envoyé au même endroit ou légèrement à côté avec un petit angle. Et pour aimanter le barreau, qu'est-ce qu'on fait ? On ne va pas utiliser un aimant, on va prendre un fil électrique, on va l'enrouler autour du barreau et on fera passer un courant d'eau. Au moment où le courant passe, c'est la découverte de Oersted, ce courant électrique sera accompagné, comme tout courant, d'un champ magnétique, lequel champ va aimanter le barreau, et on aura comme ça instantanément aimanté le barreau, et on devrait voir le barreau tourner. La théorie, en 1915, quand Einstein fait l'expérience, la théorie disait que... il faut que j'ouvre une petite parenthèse. On mesure d'un côté l'aimantation, de l'autre côté la rotation. Si on veut comparer ces deux-là, on va s'intéresser à un rapport de l'angle de rotation sur la magnétisation. Voilà. Et dans les unités standards, ce rapport-là, la théorie de l'époque dit que
ce rapport doit être égal à 1. Oui, c'est facile, 1. Alors ils font l'expérience en espérant obtenir 1. Qu'est-ce qu'ils obtiennent ? 1. Bon, ben, ils disent, ben, c'est très bien. Il annonce qu'on a obtenu exactement ce qu'il fallait obtenir. C'est très bien, tout est parfait, c'est merveilleux. Bon, allez, on remballe, on s'en va. Sauf qu'il ne fallait pas qu'ils obtiennent 1. Parce que la théorie, à l'époque, 1915, disait 1. Mais quelques années après, la physique avait évolué. Et quelques années après, on savait qu'il ne faut pas trouver 1. Il faut trouver 2. Et pourquoi il a trouvé 1 ? Et donc, on va interroger De Haas. On dit, comment ça, vous avez trouvé 1 ? De Haas dit, ah, en fait, c'est vrai, on n'avait pas trouvé 1. On avait trouvé d'autres valeurs, mais les autres valeurs, on les a mis de côté. En pensant que... il ne fallait pas qu'on en tienne compte. Et en fait, ils avaient fait 2 expériences. 2, seulement 2. Dans l'une, ils trouvent 1,02. Dans l'autre, ils trouvent 1,45. Au lieu de s'intéresser à cette valeur 1,45, parce que peut-être que s'ils y étaient intéressés, ils auraient peut-être trouvé qu'il y a une anomalie, ils auraient fait une découverte. Non, la valeur 1,45, parce qu'il y a une idée préconçue qu'il faut trouver 1, le 1,45, on le met à la poubelle, on n'en parle pas. Et c'est beaucoup plus tard qu'on découvre qu'il y a eu un petit peu, on va dire, une petite falsification. Dernier exemple, Eddington. Nous sommes maintenant en 1919. La théorie d'Einstein, établie par Einstein en 1915, dit que un faisceau de lumière doit être dévié par une masse importante. Ce qui fait que, je ne sais pas si vous arrivez à... Oui, je pense que ça se voit, même pour les gens qui sont au fond. Si un faisceau de lumière est en train de passer, frôler un corps massif, comme une étoile par exemple, en frôlant la masse, comme une balle qui serait en train de passer au voisin de la masse, cette grosse masse doit légèrement dévier le faisceau de lumière. Alors Newton prévoit aussi une petite déviation, mais la déviation que prévoit Einstein vaut le double, dans cette nouvelle théorie, vaut le double de ce que prévoit Newton. Et en 1919, Eddington, un physicien, il décide de monter une expérience, monter une expédition, parce que la seule grosse masse dans les voisinages qu'on connaisse, vraiment grosse masse qui soit capable de dévier la lumière, bah c'est le Soleil. Mais sauf que si vous imaginez une étoile qui serait derrière le Soleil ou au voisinage du Soleil, cette étoile-là, vous ne la voyez pas en plein jour, puisque bon, vous êtes ébloui par la lumière du Soleil. Donc afin de voir cette étoile, il faut qu'il fasse noir en plein jour. Et pour ça, il faut qu'il y ait une éclipse. Donc en 1919, il y a une éclipse. Le trajet de cette éclipse solaire vous est présenté sur la carte qui est juste en dessous. Et vous voyez, il y a 2 endroits intéressants qu'ils ont choisis pour faire l'expérience. Un premier endroit au Brésil, à Sobral. Un deuxième endroit au voisinage de l'Afrique, sur l'île de Principe. Eddington lui-même, il va sur cette île de Principe et il fait deux mesures, en fait. Enfin, le temps, il ne faisait pas beau. Du coup, les plaques photographiques qu'il obtient ne sont pas exploitables. Enfin, bref. À Sobral, ils emportent 2 télescopes, donc il y a 2 séries d'expériences qui sont présentées ici et ici. Alors quand on regarde maintenant ces résultats, Newton disait on devrait obtenir le chiffre, là c'est l'angle, 0,85. Newton dit 0,85. Et on obtient quoi ? Ben, on obtient un peu de tout. Les 18 valeurs du Brésil de cette expérience donnent 0,8, ça fait pile, c'est Newton, c'est ce que nous dit Newton en fait. Les 8 autres donnent une valeur un peu trop élevée, beaucoup trop élevée par rapport à Newton, mais trop élevée aussi pour Einstein, c'est pas bon. Einstein, je vous ai dit le double, donc vous faites 2 fois 0,85, vous devriez tomber dans les 1,70, quelque chose comme ça. Donc 1,98, c'est beaucoup trop grand. Eddington lui-même qui était parti sur cette île, il trouve 1,62, bon ça colle pas non plus, bon. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Ben oui, mais Eddington dit, bon, alors comment on va départager les choses ? On va faire comme ça. Ben, ces 18, là, de toute façon, ce ne sont pas de belles photos. On jette à la poubelle. En plus, ça donne la valeur de Newton. Donc, ça, c'est pas bon. Ensuite, après, comment on va faire ? Les 8 autres qui sont ici, ah oui, mais c'est trop élevé par rapport à ce que dit Einstein. Bon, allez, on les oublie aussi. On va prendre ça. Elles sont ces deux plaques. Et qui sont les pires, en fait. Dans les photographies, c'est les pires, c'est les moins bonnes. Il dit, ah ben voilà, là, on n'est pas très loin, finalement, de ce qu'il fallait trouver. Et voilà ce qui est annoncé, 1919. Le résultat expérimental de cette expédition pour l'éclipse du Soleil et la déviation de la lumière par le Soleil confirme la théorie einsteinienne. Et on boucle la chose. Mais là encore, il y a une idée préconçue derrière tout ça. À savoir que jusqu'en 1963, à plusieurs reprises, cette expérience a été tentée. Encore en 1963, les gens qui faisaient l'expérience, avec les technologies, avec 40-50 ans d'avance, eh bien, les gens voyaient que non, avec les résultats qu'ils obtiennent, on ne peut pas conclure à travers ce genre d'expérience. Malgré tout, c'est ce qui a été retenu. Bon, je ne suis pas en train de dire que la théorie einsteinienne n'est pas bonne, mais je suis en train de dire que ça, cette expérience-là ne prouvait pas qu'elle était bonne. Pour conclure maintenant, je vous ai présenté un certain nombre d'anomalies qui ne sont pas conformes à l'image qu'on se fait, l'image idéale qu'on a envie de se faire de l'activité scientifique. Il est intéressant de noter que dans ce livre d'Emile Meyerson, dont la première édition date de 1908, Emile Meyerson dit la chose intéressante suivante, qu'il n'est pas rare que des croyances et des analogies très étranges aboutissent à de grandes découvertes. On l'a vu avec Newton, on l'a vu avec Oersted. Beaucoup plus récemment, 2006, le périodique Nature Cell Biology indiquait qu'un article sur 5 que ce même périodique publie contenait des données discutables. Ça veut dire que ce sont des données un petit peu rafistolées, des données sélectionnées, mais qu'on publie quand même. En 2007, il y a une autre étude concernant les fraudes qui a été publiée cette fois dans Nature qui concluait que finalement, ces mêmes conduites qui ne sont pas très propres, finalement, sont assez utiles et finalement, il faut peut-être l'accepter, la science fonctionne comme ça, avec ce genre de petites fraudes. Et je vais terminer avec ce livre de Boris Cyrulnik, dans La naissance du sens. Il raconte cette anecdote tout à fait intéressante. Il dit qu'en 1974, il y avait un énième congrès consacré à l'inné et l'acquis qui était organisé par le CNRS et qu'il décide, Boris Cyrulnik, biologiste, d'interroger les congressistes sur la chose suivante. Veulent-ils voter, 1974, veulent-ils voter pour Giscard ou Mitterrand ? Alors apparemment, il y a beaucoup de congressistes qui jouent le jeu. Et Boris Cyrulnik indique dans ce livre que ce qu'on voit, de manière assez stupéfiante, c'est que quasiment tous les gens qui sont pour l'inné votent pour Giscard. Ceux qui sont pour l'acquis votent pour Mitterrand. Et il dit que là-dedans, il n'y a pas un gramme de science. Ça veut dire que dès le départ, leur opinion concernant l'inné et l'acquis, finalement assez influencé par leurs opinions politiques, ou peut-être dans l'autre sens. Et la conclusion de Boris Cyrulnik, c'est le drame, c'est que cette philosophie, l'État peut s'en emparer pour l'officialiser. Et en effet, l'inné, c'est Hitler, l'acquis, c'est Staline. Voilà, je m'en tiendrai là.
L'Agora des Savoirs, des conférences ouvertes à tous. Une initiative de la ville de Montpellier en partenariat avec Divergence FM.